voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Michel Virlogeux. Ce soir, naissance d'un pont.
Bonsoir Michel Virlogeux.
Bonsoir madame.
Vous êtes un spécialiste mondial des ponts, ingénieur des ponts et chaussées. Vous avez construit près de 200 ouvrages, dont le pont de Normandie et le viaduc de Millau. Ce soir, dans notre entretien, il sera question plus précisément de la construction d'un pont, de ce que mobilise la construction d'un pont. Et j'aimerais, avant de commencer, vous lire quelques lignes d'un roman de Maïlys de Kerangal qui s'appelle « Naissance d'un pont » et entendre vos commentaires. Fallait-il encombrer la terre plutôt que le ciel ? Fallait-il démontrer sa force ? Opter pour un ouvrage puissant, une combinaison de pièces massives, lourdes, telles le pont de Maracaibo? Fallait-il un ouvrage transparent, aérien, une construction où les structures concentrent la matière en peu d'éléments, une option de finesse, telle le viaduc de Millau? Fallait-il désenclaver une ville ou souder deux paysages? Fallait-il sursoir à la nature, utiliser ses lignes ou s'y incorporer? Est-ce que, Michel Virlogeux, les questions se posent en ces termes?
Ben moi, je trouve que ce passage est absolument parfait. Alors, ceci dit, bon, pour essayer de développer un peu, si vous voulez, je dis souvent qu'on ne construit pas un pont en Bretagne et sur la vallée de la Loire de la même façon. Vous êtes en Bretagne, vous êtes dans un pays de granit, un pays solide, il faut des ponts d'une certaine puissance. Hein, nous avons parlé hier du pont sur la Rance, c'est un arc qui vient pousser sur le rocher des deux côtés, qui vient s'appuyer sur le rocher, c'est un pont puissant. Ça, vous ne ferez pas ça sur la Loire. La Loire, c'est un paysage plat, on ne va pas faire de la même façon. Hein. Maïlys de Kerangal évoque le pont du lac Maracaibo. Alors, moi, je vais dire les choses très clairement, moi, je l'aime beaucoup, ce pont. C'est pas un ouvrage qui est efficace structurellement, il consomme beaucoup de matière. Mais c'est un ouvrage extrêmement puissant qui montre très bien comment fonctionnent les efforts, par où passent les efforts. Et moi, j'ai beaucoup défendu Riccardo Morandi après l'effondrement du pont de Gênes, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois architecte, ingénieur, enfin je ne sais pas très lequel des deux il est exactement, mais qui a développé une idée très personnelle, des idées très personnelles. Il a un dessin des ouvrages qui est très des années 25-30 mussoliniennes, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Politiquement, c'est pas par hasard, si vous voulez. Hein, c'est de l'architecture stalino-hitléro-mussolinienne. Hein. Mais il est très lisible. Donc c'est une mauvaise voie, parce que il a fait cet ouvrage, ainsi que celui de Gênes et celui de Libye, là, le pont de Wadikouf, à l'époque où les Allemands avaient développé des ponts au banc modernes. Les ponts au banc, ce sont des ponts dont le tablier est supporté par des câbles, hein, très puissants, qui vont directement du tablier au pylône. Hein. Ce sont des ouvrages qui sont auto-équilibrés, si vous voulez. Hein. Alors qu'un pont suspendu, vous avez les grands câbles porteurs qui vont s'ancrer dans le terrain de part et d'autre. Voilà. Donc, le pont de Maracaibo, c'est un pont massif, mais il est logique. Il y a un autre exemple d'erreur, si vous voulez, d'ingénieur comme ça, c'est le pont du Firth of Forth, le vieux pont qu'on voit sur les films d'Hitchcock, pont ferroviaire. C'est un ouvrage qui a consommé une quantité de matière absolument fabuleuse, alors qu'à l'époque, on arrivait à faire des ponts suspendus avec deux fois moins de matière. N'empêche que c'est un pont, dans l'imaginaire collectif, c'est un pont très très important. Alors, donc, il faut... Les jugements, bon... C'est clair que moi, ma ligne, c'est bien celle de Maïlys de Kerangal. Hein. C'est essayer de faire des ponts transparents. Millau, comme elle le dit, c'est une volonté de transparence absolue.
Une option de finesse.
Une option de finesse et d'élégance. Hein. Et, donc voilà, chaque pont doit être adapté à son paysage. Il doit rentrer dans son paysage. Moi, j'ai des collègues qui ont envie de faire un pont en arc ou de faire un pont, et ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent le caser. C'est pas du tout ça. Quand on arrive dans un projet, il faut regarder, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire là et qu'est-ce qui vaut le mieux là. Alors, on le voit pas toujours, hein, c'est pas quelque chose qui est toujours immédiat. Il y a des cas où c'est, on dit, merde, ça, il faut faire comme ça, hein. Alors, quelquefois, on y arrive et quelquefois, on se fait fusiller, hein, mais, et on n'a pas le projet. Mais, quand on, moi, je suis en train de faire un concours au Canada, ce qu'il fallait faire, pour moi, c'était clair dès le début, hein, ce qu'il fallait faire. Bon, alors on verra le résultat dans 2 ou 3 mois, hein, si on le gagne ou pas. Et puis il y a des cas où c'est beaucoup plus difficile, où on n'arrive pas, il n'y a pas quelque chose qui s'impose, hein, d'une façon naturelle. Mais globalement, l'ouvrage, il faut qu'il s'adapte à son site et qu'il soit élégant. Il faut vraiment les deux.
Vous êtes sensible à quelque chose qui est dans l'imaginaire des ponts, le fait que ça, un pont relie 2 parties qui n'étaient pas faites pour être reliées. Et je pense par exemple à la baie de San Francisco. On a d'un côté la ville et l'hyper-civilisation. Et quand on arrive de l'autre côté, on se croirait dans le désert.
Oui, alors, je ne connais pas bien, je ne suis pas jamais allé sur les ponts de San Francisco. Il y en a deux, hein, quand même, faut pas oublier. Il y en a deux. Hein. Il y a le Golden Gate, qui, lui, fait partie des grands ponts de l'imaginaire collectif. Et puis, ils avaient l'autre, qui s'appelle l'Oakland Bay Bridge. Voilà. OK. Qui a été remplacé par un nouveau pont qui est franchement
qui
caca, quoi.
Ah bon,
il est poche, quoi. Enfin, moi je l'aime pas du tout. Bah, je vais vous raconter une histoire, alors. C'était au moment où il y avait un concours de conception là-dessus, donc j'étais allé aux États-Unis parce que il y avait pas encore de Covid à ce moment-là, c'était il y a longtemps, hein. Et j'avais des ennuis parce que mes bagages n'avaient pas suivi, donc je suis arrivé à une conférence là où je suis arrivé tard le soir, j'avais en t-shirt dégueulasse et tout. Je suis allé rejoindre au bar un copain qui voulait me mettre dans son équipe pour répondre au concours. Et il était en train de prendre un pot avec l'ingénieur en chef du Caltrans, donc le client. Et alors, on parle un peu. Et alors, l'objectif du pont, ils avaient prévu de faire un grand viaduc courbe prolongé par un pont assez spécial, qui était un pont suspendu avec un seul pylône, dont il voulait faire un signature span. C'est-à-dire qu'il y avait le viaduc, et puis il voulait faire un truc extraordinaire au bout. Et alors là, dans le bar, je me tourne vers l'ingénieur en chef, hein, et je lui dis, mais pourquoi voulez-vous faire une signature span et pas une signature bridge? Bon, bavarde un peu, puis je pars me coucher parce que j'avais le décalage horaire. Et là, il se tourne vers le copain. If you take this guy in your team, you're out. Hein, c'est-à-dire que lui, il voulait ça, et quelqu'un qui amène une autre idée, bah, il le vient. Voilà, c'était tout simple.
Et le pont de San Francisco, le Golden Bridge, vous le trouvez beau?
Ah oui.
Oui.
Alors, bien sûr. Alors ça, c'est une autre idée aussi. Chaque pont est le témoin de son temps. Hein? On ne fait pas aujourd'hui les ponts comme on les faisait dans les années 30, comme le Golden Gate. C'est sûr. Il est daté. Si vous allez à Florence, si vous allez regarder le Ponte Vecchio, qui est quand même une grande avancée technique, hein, c'est une voûte très surbaissée, très ancienne. Ce sont des ponts qui sont datés. Ils sont liés à leur époque. C'est-à-dire, donc, un pont, il est lié, bien sûr, à son site, à son époque, et puis au concepteur aussi, parce que 2 concepteurs différents font pas le même, hein.
Vous avez, hormis, si on met de côté les ponts dont vous êtes le concepteur, vous avez un pont préféré?
J'ai des ponts préférés. Oui. Hein, des ponts préférés. Bah, il y a le Golden Gate, ça c'est tout à fait sûr. Il y a le Firth of Forth, Maracaibo. Hein. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a beaucoup de ponts. Tiens, en France, j'ai participé à un concours que j'ai perdu. Et le pont qui a été construit est vraiment un truc extraordinaire. C'est le viaduc du Chavanon, sur l'autoroute, je crois, de l'année 88. C'est un pont suspendu avec une nappe axiale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a été fait par un architecte qui s'appelle Jean Berlotier et Jean Muller International, c'est mon copain Jean-Marc Tanis.
La collaboration entre un ingénieur et un architecte, elle est très ancienne, elle est obligatoire?
Alors, elle n'est pas ancienne du tout. Elle est aujourd'hui obligatoire. Et malheureusement, aujourd'hui, les architectes ont fait un lobbying puissant qui fait qu'ils ont bien souvent qu'on leur donne le leadership, ce qui est une catastrophe. moi, j'ai une façon quand même de bien classer les choses. Si le pont s'écroule, c'est pas l'architecte qui va en tôle. C'est l'ingénieur.
Ah, ils y vont pas tous les deux. Ils n'y vont pas tous les deux.
Non, c'est celui qui est, c'est l'ingénieur. Donc, c'est l'ingénieur qui doit commander. Commander, ça veut pas dire jouer les dictateurs. C'est pas du tout ça. Et moi, il faut qu'il y ait une collaboration effective, efficace et sincère entre les deux. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des architectes français spécialisés. Charles Lavigne, qui n'est plus là aujourd'hui. Philippe Fraleux, qui s'est retiré. Jean-Vincent Berlotier, qui s'est lui aussi retiré. Il y a eu un autre aussi qui s'appelait Bert Michaelian. Voilà. Bon, donc, et puis j'ai eu la chance de travailler avec deux très grands architectes. Foster, évidemment. Lord Foster. Avec du succès. Et avec Renzo Piano. Et sans succès, malheureusement. C'est ce qui est dommage parce que le pont était une petite merveille. Il est évident que vous ne pouvez pas ne pas écouter quelqu'un comme Foster. C'est sûr. Mais Foster, il a jamais prétendu qu'il était le concepteur du viaduc de Millau, hein. Mais sans lui, il serait pas aussi beau. Ça, c'est tout à fait clair. Bon, ceci dit, il arrive que l'architecte renverse complètement l'idée que je pouvais avoir. Je peux prendre un exemple. C'est un pont à Limoges, hein, sur la Vienne. On travaillait. On était avec Jean-Marc Tanis encore. Et Charles Lavigne, l'idée, on avait envie de faire un petit pont en arc, parce que tous les ponts de Vienne, à part celui de l'autoroute, tous les ponts de Vienne sont des ponts en arc. Donc on allait avec en partie deux ponts du XIIIe siècle, hein, le pont Saint-Étienne et le pont Saint-Martial, qui étaient sur les chemins de Compostelle, près de l'abbaye. Bon, il fallait faire un pont en arc. Bon, je fais des croquis, on fait des croquis, enfin, surtout moi qui fais les petits dessins très moches. Et puis là, il y a Charles Lavigne qui dit, mais vous ne répondez pas à la question qu'on vous a posée. Ils vous ont dit, la ville veut se réapproprier les berges de la Vienne. Il faut qu'on trouve un moyen de que le pont, il passe pas au-dessus de la Vienne, mais qu'il se lie aux berges. Voilà, là, ça a été claque tout de suite. Hein, et donc, on a décidé de faire un pont en arc, mais que les piétons puissent monter sur l'arc pour passer des rives sur le truc. Donc, en l'espace, et là, c'est ça qui est l'élément déclencheur passionnant, c'est que là, en l'espace d'une heure et demie, on passe d'un problème à la solution. Mais la solution, elle arrive. Alors, évidemment, derrière, il y a beaucoup de travail, il faut faire des trucs, machin. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer, parce qu'il y a un truc à l'arrivée, je ne suis pas très content, parce que ça aurait pu être encore mieux. Hein. Mais là, en l'espace d'une heure et demie, la solution sort. Pareil pour le pont de Térénèse. On avait le pont de Térénèse, c'est un pont à Auban, courbe en Bretagne. On a passé, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois, parce qu'il y avait un problème technique qui se posait. Enfin, ce qu'on avait fait avant marchait bien, mais pas en dessous du tablier. Les efforts étaient impossibles. Quoi. Ça marchait pas. La conception était mauvaise. Et on a pédalé 6 ou 8 mois. Et puis, à force de faire des dessins idiots, il y en a un qui m'a dit « Purée, qu'est-ce que je suis con !» Et là, j'ai dit « Voilà, on fait ça. » J'avais rajouté une pièce de plus dans ma structure. Et puis, là, c'était facile. On avait un mât incliné au-dessus, le tablier d'un seul côté, et dessous, une pile. Et les piles, elles prenaient des efforts qu'ils ne voulaient pas. J'ai rajouté une jambe, changer un petit peu l'inclinaison de la partie au-dessus, tous les efforts passent, et du coup, en dessous, il y a un truc qui ne servait plus à rien. Et du coup, tac, là, la forme est instantanée, elle apparaît, et là, Charles Lavigne, puisque c'était encore lui, là, on a fait, je sais pas, 50 ponts ensemble, Charles Lavigne, tac, 2-3 minutes après, on avait le dessin. Et là on a pédalé pendant 6-8 mois, sans pouvoir en sortir, et là, en l'espace d'une heure.
C'était évident.
C'est réglé. C'est évident après.
Ah, après, voilà, oui.
Voilà. Et ça, c'est passionnant.
Vous pouvez faire un portrait du caractère de Lord Norman Foster, l'architecte britannique.
Lord Norman Foster, c'est quelqu'un d'abord d'extrêmement intelligent, qui, à mon avis, a une sérieuse culture structurelle. Hein, parce que, je peux vous dire que pour le projet de Millau, on avait, pendant la phase vraiment active, on allait à Londres tous les 15 jours. l'autre fossoyeur, il se déplaçait pas. Hein, c'était une... Et alors, c'était toujours le même truc. Hein, le matin, on travaillait avec son équipe. Là, donc, le matin, on travaillait. Alors, il y avait un ou deux ingénieurs qui venaient avec moi. On allait casser la croûte dans un pub en face où je mangeais du haggis au whisky. Et on revenait voir Foster. On avait, alors selon les cas, on avait droit à une heure ou deux heures. Et là, c'était réel comme de payer la musique. Hein, si vous voulez, il était très, très organisé. Il demandait à Tim Quick où on en était, quels étaient les problèmes. Alors là, il se tournait vers moi. Et pourquoi on peut pas faire ça? Donc, j'expliquais pourquoi ça, c'était pas possible. Et il dit, d'accord, alors qu'est-ce que vous proposez? Mais ça durait très peu de temps. Moi, je dis, à un moment... comment on organise les piles? Est-ce qu'on fait les piles sous le tablier? Hein, comme il y en a des très grandes, il y en a les plus petites. Celles d'extrémité prennent des efforts importants parce qu'il y a les dilatations de la température. En gros, la question que j'arrivais, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait toutes les piles pareilles ou est-ce qu'on fait des en fonction des efforts qu'elles prennent? Et j'avais fait deux croquis pour expliquer, mais des vilains croquis, mais que j'ai toujours. Ça a pris 10 secondes. 10 secondes. J'ai été à la suite de pression d'équipes concurrentes qui ont dit, ben, comme il était au CETRA, il était favorisé, il faut pas qu'il participe à la compétition entre les 5 études proposées.
Le CETRA, c'était un établissement public.
Oui, voilà. Tout à fait. Mmh. Ah oui, mais j'étais avant, ça, j'étais plus. Mais comme j'y avais été avant, au moment où on lançait le projet, j'étais soupçonné d'avoir des billes que les autres n'avaient pas. Voilà. Donc j'avais pas le droit. On a exigé que je sois retiré de l'équipe. Bon, j'étais retiré. Et donc par conséquent, quand il a fallu aller présenter le projet au jury, j'étais pas là. Et à ce moment-là, la question s'est posée, mais qui va présenter les aspects techniques du projet? Et Foster a dit, c'est moi. C'est lui qui l'a fait. Et il avait parfaitement compris tout ce que j'avais expliqué, et il a fait une démonstration. Mais alors, comme ça. Hein. Voilà. Et autre anecdote, alors ça c'était pour un concours qu'on a fait en Belgique qui n'a pas eu de suite. Ouais. L'affaire a été pipée, enfin bon, tout ça on n'aurait jamais gagné parce que c'était... Bon.
Il y a souvent des...
Non, ça arrive, il ne faut pas s'inquiéter. Donc on était avec FH, hein, à nouveau, Foster comme un truc, et là c'était une conception-construction, c'est-à-dire qu'on partait directement avec l'entreprise. On devait aller présenter le projet... la ville en question, on arrive à Bruxelles, on loue une bagnole, on va là-bas, et on devait récupérer Foster à l'aéroport, parce qu'il arrivait avec son petit avion, parce qu'il pilote lui-même. Lord Foster pilote son petit avion. Peut-être plus maintenant, mais à l'époque, il pilotait son petit avion. Entre parenthèses, il avait eu un souci au jury de Mio, parce qu'il avait amené une maquette, et la maquette, elle n'entrait pas dans l'avion. Et donc après... Sur un des murs du cabinet, enfin du building de Foster, il y avait là le gabarit de la porte de l'avion de Foster. De façon à ce que les maquettes, à l'avenir, passent dans l'avion. Bon, bref. Donc, on va récupérer Foster à l'aéroport. On avait un espace Renault, une grande bagnole. Il se met au deuxième rang avec Alistair Lengsner, qui était l'ingénieur chez lui qui s'occupait de ça. Et il se tourne vers Alistair, il dit « Au fait, de quoi parlons-nous aujourd'hui ?» Et puis, on arrive, on démarre. Mais alors, vraiment, tout était nickel chrome. En fait, il avait besoin qu'on lui rappelle
c'était
vachement.
C'était presque une question rhétorique.
C'était une question rhétorique, et puis c'était un peu pour faire de l'esbrouffe pour nos amis des facs.
Et un petit portrait de piano.
Alors, Renzo Piano, c'est un peu différent. Si vous voulez, Foster, il a... C'est Lord Foster. Enfin, à l'époque, il n'était que Sir Norman Foster, mais c'est quand même l'établissement britannique. Donc, il y a une certaine distance, hein, mais hyper sympa quand même. Hein. Je veux dire, vraiment très agréable. Hein, vraiment très agréable. Travailler avec lui, vraiment. Puis, c'est un vrai professionnel. Alors, piano, c'est un peu plus différent. D'abord,
plus latin, mais
très accessible, très gentil. C'est quelqu'un. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très bien, quoi.
C'est lui qui a dessiné le nouveau pont de...
Oui, le nouveau pont de Gênes.
De Gênes.
Alors, moi, je l'aime pas beaucoup. Je trouve que... Mais il faut bien voir quel était l'objectif principal de ce projet. C'était de résoudre le problème de Gênes très vite. Hein? Et là, deux ans, moins quelques jours, après l'effondrement, le pont était en service, quand même. Et ça... ça n'aurait pas été possible en faisant un ouvrage très ambitieux. Donc il fallait, et là ils se sont organisés, bon d'abord ils, aucune règle administrative à suivre évidemment, parce que ça, si vous, mettez tout le circuit de déclaration d'utilité publique, les machins, les bidules, c'est impossible. Hein. Mais donc là ils ont rejeté tout ce qui était administratif. Ça a été décidé directement entre le maire de Gênes, Renzo Piano, et je pense le concessionnaire, hein. Et ils ont décidé de faire un ouvrage quand même simple, qu'on peut construire très vite. Et parce que d'abord, il a fallu d'abord attendre d'avoir fait tous les constats judiciaires, puis démolir. Donc si vous voulez, on pouvait pas travailler tout de suite. Donc quand on dit 2 ans, c'est pas 2 ans. Enfin, ils ont eu moins d'un an et demi. Hein. Alors ils ont évidemment pu commencer à faire le projet avant. L'avantage de la solution qu'ils ont retenue, c'est qu'on va fabriquer la charpente dans une usine. Je sais pas où. Hein, je sais pas qui l'a fait. Je connais pas les détails, mais on fabrique toute la charpente métallique. On construit les piles pendant en même temps. Et puis après on le lance. Donc c'est pas un des grands ouvrages d'architecture moderne. Mais l'objectif, c'était ça, parce que Gênes était étranglé par la rupture du pont.
Le pont s'est écroulé le 14 août 2018, donc l'inauguration a eu lieu il y a quelques semaines, en août 2020. Oui. C'est un pont, lorsqu'il est construit, livré, il est garanti pour combien d'années ?
Alors, le terme garanti, j'aime pas beaucoup. Il est conçu pour tenir 100 ans, à condition d'être entretenu correctement. Hein. Alors, d'abord, cette notion de durée de vie n'existait pas dans le temps.
Hein. Elle date de quand, là ?
C'est relativement récent. Alors, avant, on parlait de 50 ans, mais c'était pas. Si vous allez regarder les règlements de calcul français, les règlements de conception, il n'y a pas de durée de vie annoncée. Aujourd'hui, dans les eurocodes, on parle d'une durée de vie de 100 ans. Hein. Le viaduc de Millau, dans le contrat, c'était 125 ans. Hein. Vous avez des durées de vie. Alors, il est évident ça veut rien dire de dire le pont, il va tenir 100 ans, et 100 ans plus un jour il tombe, 100 ans moins un jour il tombe pas. Ça, c'est de la rigolade, ça. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de choses qu'on peut calculer. Je pense particulièrement en construction métallique. Ce qui peut limiter la durée de vie, à part les erreurs de conception, bien sûr, hein, ou les attentats, ou les incendies, mais ce qui limite la durée de vie, ce sont les soudures. Parce que le point critique d'un pont métallique, c'est les soudures. Et ce qui peut créer une rupture de soudure, c'est ce qu'on appelle la fatigue, c'est-à-dire la répétition de cycles de contraintes. Quand vous avez des variations comme ça, tchac, 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 à le passage des camions, vous avez, si les variations de contraintes dans les soudures dépassent un certain niveau, si c'est en dessous d'un certain niveau, il se passe rien. Normalement, ça peut durer à perpète. Si on est à un certain niveau au-dessus, eh bien à ce moment-là, on a droit à un certain nombre de cycles. Alors ça se compte en millions, bien sûr. Hein. Mais ça, dire des cycles, ça veut dire une durée de vie. Voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles on est capable d'évaluer une durée de vie. Sachant, bien entendu, que vous pouvez le rénover. Hein. C'est-à-dire, d'abord, il y a toujours la corrosion. Donc, un pont métallique, il faut le repeindre. Et puis, si vous avez des soudures qui sont fatiguées, qui fissurent, on peut refaire la soudure. Donc, la durée de vie d'un pont, elle dépend aussi beaucoup de l'entretien et des gens qui le font. Là, je peux raconter une toute petite anecdote. On dit souvent que on construit moins bien les ponts aujourd'hui parce que les ponts romains tiennent toujours. Alors d'abord, ceux qui tiennent, ce sont les meilleurs. Hein. C'est la différence entre les ponts et les fusées. Hein. Les bonnes fusées, c'est celles qui partent, et les bons ponts, c'est ceux qui restent. Mais si vous voulez, les ponts romains qui ont disparu, il y en a des quantités. Alors, on va prendre l'exemple du pont du Gard. Le pont du Gard, il est là depuis 2000 ans. Et il a failli disparaître, le pont du Gard. Parce qu'en 1978, le pont de Tours s'est écroulé à la suite d'une inondation qui a provoqué un affouillement. C'est-à-dire que la crue a enlevé, a chassé tout le sable, les alluvions qu'il y avait entre les pieux en bois de fondation. Et plouf, on a une première travée qui est tombée, puis 5 autres. Donc voilà. Alors ça a créé une panique généralisée en France. Et on s'est mis à aller inspecter tous les vieux ponts en maçonnerie. Et en particulier, on a envoyé des plongeurs aller voir les fondations du pont du Gard. Et ben, il y a un plongeur qui est passé avec une règle de je sais pas si c'était d'un mètre ou 2 mètres, sous une pile du pont du Gard. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'il fallait, on a bétonné, on a reconstitué le rocher, on a bouché la caverne sous la pile. Mais donc là, on a changé la durée de vie du pont.
Dans le cas du pont de Gênes, c'est une erreur de conception ou c'est un manque d'entretien? C'est les deux.
Le pont de Gênes, à mon avis, je l'ai écrit dans des revues techniques, il a rompu parce que c'est un des haubans qui a rompu. C'est-à-dire qu'il a une conception très particulière, comme celui du lac Maracaibo. C'est-à-dire que vous avez un pylône ultra rigide avec des systèmes de pièces inclinées pour que ce soit très rigide, qui porte de chaque côté ce qu'on appelle une console en encorbellement, et à l'extrémité des consoles, vous avez des haubans. Et il y en a 4 de haubans. 2 d'un côté du pylône, 2 de l'autre, et à chaque fois, un de chaque côté de la chaussée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un seul hauban pour un quart de pont. Si ce hauban casse, tout casse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, et ça, on le savait depuis très longtemps, puisque j'ai déjà suivi une conférence en 1979, dans laquelle on parlait de l'entretien du pont de Gênes. Ces ponts ont pas mal... Enfin, le béton de ces espèces de haubans est assez poreux. On est dans une zone industrielle, près de la Méditerranée, et donc vous avez des petits sels qui viennent petit à petit pénétrer dans le béton, parce qu'il est trop poreux. Hein, l'une des évolutions de la construction moderne, c'est de passer à des bétons compacts. Hein. Donc là, celui-là est poreux, et petit à petit, les chlorures, puisque c'est ça les méchants, ce sont les chlorures, hein, viennent pénétrer petit à petit, et ils ont progressivement atteint les fameux câbles de précontrainte. Et là, ils ont corrodé les câbles de précontrainte, qui sont formés d'un grand nombre de fils, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure que les fils cassent, c'est la tension dans les fils qui cassent, pour des raisons compliquées que je vais pas détailler ici, se reporte sur les fils pas encore cassés. Si bien que la tension, la force qu'il y a, qui est exercée dans les fils qui sont pas encore cassés, augmente petit à petit. Et à un moment, on dépasse la résistance potentielle des... Et à ce moment-là, la rupture est explosive. C'est paf. Et là, on avait des signes que c'était corrodé, sans être capable de l'évaluer. Et il était prévu de remplacer ces câbles. Et il y avait même une qualification en cours, si vous voulez. Et malheureusement, l'accident est arrivé avant qu'on vienne remplacer les câbles. Sachant qu'ils avaient été remplacés sur un autre pylône.
Merci pour ces explications, Michel Virlogeux. Eh bien, nous nous arrêtons là pour ce soir. Je vous dis à demain soir.
À demain, Virginie.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Michel Virlogeux. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.